Au chapitre 4, dans le livre des Actes, au chapitre 4, verset 1er, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1er, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple, les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple. Et annoncer en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. » C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre disant « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais de qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Amen. Pour comprendre ce qui s'est passé dans ce chapitre 4, il faut retourner au chapitre 3, au chapitre précédent, où nous découvrons ce qui a amené cette arrestation de Pierre et de Jean. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, et devant l'une des portes du temple, un boiteux va être guéri miraculeusement. Immédiatement, ça va provoquer un attroupement autour de Pierre et de Jean. Les gens voulaient savoir ce qu'il se passait, et Pierre a leur expliqué comment cet homme a été guéri au nom de Jésus. Et il a commencé à annoncer l'évangile, à enseigner dans le nom de Jésus. Les chefs religieux sont arrivés, ils ont entendu ce qui se passait, ils ont vu. Alors ils les ont fait arrêter, comme c'était déjà le soir. Ils les ont mis en prison, ils se sont certainement dit, ça va les calmer un petit peu et demain, on pourra les avoir entre nos mains. Maintenant, dans le chapitre 4, je voudrais qu'on visualise les versets 5 à 7. Il nous est dit que Pierre et Jean ont passé une nuit en prison. C'est probablement la première fois que ça leur arrivait. Mais ça ne sera pas la dernière fois, à cause de leur foi. Et ils se retrouvent conduits dans une grande salle. Et dans cette grande salle, il y a tous les chefs religieux, le commandant du temple, le souverain sacrificateur. Et on les place au milieu, pas dans un coin, au milieu, pour qu'on les regarde bien. Pour que tout le monde les dévisage, pour qu'on les scrute de haut jusqu'en bas et de bas jusqu'en haut. pour qu'on les intimide, pour qu'ils soient impressionnés. Rappelez-vous, quelques semaines auparavant, il s'était passé à peu près la même chose avec un certain Jésus. Jésus avait été placé au milieu, peut-être pas dans cette salle, mais Jésus avait été placé au milieu de toutes ces mêmes personnes. Et il l'avait accusé, il l'avait bombardé de questions. Et Jésus, qu'est-ce qu'il avait répondu ? Rien du tout. Jésus n'avait rien répondu. Et eux, certainement, l'avaient interprété comme une victoire. Regardez, il enseigne tout le monde, mais devant nous, il ne répond pas. On sait pourquoi Jésus n'a pas répondu. Jésus n'avait pas répondu parce qu'il devait aller jusqu'à la croix. Et il ne devait pas se sortir d'affaire. Il fallait qu'il soit condamné. D'ailleurs, la seule déclaration qu'il a faite a accéléré sa crucifixion. Quand il dira « Tu le dis, je le suis », en disant « Je suis le Fils de Dieu ». Ils étaient dans la même stratégie. Ils voulaient les coincer. Et ça sentait le piège à plein nez. Je voudrais considérer 5 pièges que Pierre et Jean ont évités. Et ce sont des pièges aussi, des séductions, des tentations qui nous guettent. Le premier piège évité, c'est celui de s'attribuer les mérites de la guérison du boiteux. Les religieux leur ont posé la question ainsi, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ? Remarquez qu'ils ne disent pas comment vous avez guéri ce malade, ils ne veulent pas qu'ils disent cela, ça les gêne. Ils ne veulent pas le reconnaître qu'il y a une guérison miraculeuse. Mais dans leur réponse, Pierre et Jean, à aucun moment, laissent entendre que c'est eux qui l'ont fait. Regardez au verset 9. « Puisque nous sommes interrogés sur un bienfait accordé à un homme malade, il ne dit pas un bienfait que même que nous avons accordé, ce qui aurait été juste, dans un sens. Mais ils rendent à Dieu seul la gloire. C'est par le nom de Jésus-Christ. C'est encore plus évident dans le chapitre 3, où il nous est dit ceci, juste après la guérison miraculeuse, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'est par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ?» Il dira, « C'est par la foi, en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. » Vous voyez, à aucun moment, il y a une tentative de s'attribuer quelques mérites. Au contraire, ils veulent donner la gloire à Jésus. Ils veulent mettre en avant Jésus. Ils ne le disent même pas, c'est par notre foi. Parce qu'ils veulent mettre en avant, non pas leur foi, mais celui qui est l'objet de la foi, c'est Jésus-Christ. Ils parlent de Jésus le Saint, le véritable, le juste, le prince de la vie, le sauveur du monde. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Vous savez, c'est une tentation. C'est un piège des fois de s'attribuer quelques mérites qui reviennent à Dieu. On donne une prophétie et on s'attribue vite le mérite. Le prédicateur donne une bonne prédication, des gens se convertissent ou elle fait du bien et on ne se sent plus. On prie pour un malade et il est guéri et on s'attribue le mérite de ce qui est une grâce. C'est une tentation qui est très humaine. Rappelez-vous, Jésus a été tenté. La Bible nous dit que Jésus a été tenté comme nous. C'est vrai, et ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai dans le sens qu'il a été tenté, mais Jésus n'a pas été tenté de manière grossière. C'est subtil, les tentations. Jésus a été tenté 3 fois dans le désert, enfin, ou quand il est allé dans le désert. Mais c'est quoi ces tentations ? C'est Jésus est poussé à se servir de la puissance qu'il a reçue à des fins personnelles. Se transformer les pierres en pain pour lui-même. Et à un moment donné, à se jeter du haut du temple. Pourquoi ? Pour sa gloire personnelle. Vous voyez, c'est ça. C'est de détourner la puissance qu'il a reçue. C'est un piège. C'est une séduction dans laquelle, bien souvent, dès qu'un prédicateur a un peu de succès ou je ne sais qui, on peut très vite tomber dans ce dérapage. Si Dieu se sert de toi, si Dieu se sert de moi, rappelons-nous cette parole. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Beaucoup de choses sont par grâce. Et la grâce de Dieu, toutes les grâces que Dieu nous a données, elles sont pour nous mettre au service des autres, mais surtout pas pour nous en attribuer la gloire. Et grâce de Dieu, on ne sait pas trop pourquoi Dieu nous accorde. On est là, on est des porteurs, on est des... Mais attention. Le deuxième piège évité, c'est celui de se faire intimider et impressionner. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, mais je me rappelle bien chaque fois, de me retrouver devant un auditoire que je n'avais pas prévu. Je pense à quelque chose qui s'est passé un jour où je me suis retrouvé devant des personnalités et je n'avais pas du tout envisagé ça. Ou des fois, on peut se retrouver dans une situation qui était... Et là, comment ça se passe? On commence vite à transpirer. Le cœur, il commence à accélérer. Il va falloir se positionner. Il va falloir être clair. Il va falloir défendre son drapeau. Ça vous arrivera un jour ou l'autre. Ça nous arrive un jour ou l'autre. De se retrouver dans des situations un petit peu comme ça. Et là, il se retrouve devant le souverain sacrificateur, le commandant du temple. Oh, il y a une pression qui est là sur eux terrible. Hein. On les a fait mijoter une nuit en prison pour les préparer, pour leur faire comprendre un petit peu ce qui pouvait les attendre. Je suis sûr qu'ils sont de la même nature que nous. Hein. Ceux qui sont là, Pierre et Jean, il y a quelques semaines, ils avaient trahi Jésus, ils l'avaient abandonné. Ne perdons pas de vue que, même s'ils ont fait entre-temps une expérience formidable, ils ont vécu des choses extraordinaires, ils sont de la même nature que nous. Et ils connaissent la crainte et l'intimidation et la honte. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, et il y est allé. Nous savons que le jour de la Pentecôte, Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Et à partir de ce jour-là, il a parlé en langue, il a pris de la force, il a pris de l'assurance, il a exercé les dons spirituels. Nous savons que Pierre s'est maintenu dans cette plénitude. On le voit, puisqu'il prie ensemble, il cultive la présence du Saint-Esprit. Ah, une fois qu'on est baptisé en Saint-Esprit, il faut entretenir la chose. Pourtant, c'est précisé à nouveau là, Pierre rempli du Saint-Esprit. Est-ce que c'est pour nous dire qu'il n'a pas oublié de faire les niveaux? Je ne pense pas. Mais c'est pour nous dire qu'à ce moment-là, il y a eu comme une onction nouvelle. Il y a eu comme un rafraîchissement. Il y a eu comme une poussée. Si je reviens sur les expériences que j'ai faites à un moment donné, dans ces situations-là, à un moment donné, on sent la présence de Dieu qui nous dit « Je suis là, vas-y, parle !» Proclame. Et Pierre, il y est allé. Hein. Il a senti une onction. Il a senti un rafraîchissement. Il a entendu la voix de l'Esprit qui lui disait « Je suis là ». Et il y est allé. Il a vécu ce que Jésus avait promis. Dans Matthieu chapitre 10, il est écrit ceci. « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Et Pierre, il ne s'est pas laissé intimider par leur nombre, par leur prestance, par leur diplôme, par leur connaissance biblique. Mais il s'est présenté comme un témoin de Jésus-Christ. Et avec simplicité, mais avec assurance, il a parlé de Jésus. Il a annoncé l'Évangile. Le Saint-Esprit lui a donné à ce moment-là une grande assurance. Je crois qu'il est important que nous aussi, nous ayons de l'assurance. Dans un monde troublé, dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes, les chrétiens doivent avoir de l'assurance. C'est quelque chose qui est important et qu'il nous faut cultiver. Je ne parle pas d'aplomb, je ne parle pas d'arrogance, je ne parle pas de dire « je sais tout ». Le chrétien, il ne sait pas tout, mais il sait l'essentiel. Il sait que Jésus a pardonné ses péchés. Il sait que Christ est là, qu'il le soutient. Il sait que Dieu a tout entre ses mains. Voilà, elle est là, notre assurance. Et elle est déposée par le Saint-Esprit. J'aime bien ces passages dans la Bible où on voit ces gens qui manifestent cette assurance. Je pense aux trois amis de Daniel. Lorsqu'on leur demande de se prosterner devant la statue, qu'est-ce qu'ils vont répondre à Nébuchadnezzar? Nébuchadnezzar va les reprendre. Bon, allez, on s'est trompé, vous n'avez pas bien compris le message. Il le reprend un petit peu comme ça. Non. Ta statue, elle peut repasser, je donne dans ma version, hein. Elle peut passer une quinzaine de fois, on ne se prosternera pas. Et ils diront, notre Dieu, il peut nous délivrer. Hein. Et même s'il ne nous délivre pas, on est prêt à mourir. Mais quelle assurance! Je suis toujours impressionné par ce genre de choses. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre et souffre pour l'Évangile, Paul dit à Timothée. Je crois que c'est important aujourd'hui de ne pas se laisser intimider, hein, de ne pas avoir honte de Jésus-Christ, mais de savoir se positionner pour Jésus-Christ. Bien sûr, il faut de la sagesse. Et c'est bon de se positionner pour Jésus-Christ et de ne pas se laisser intimider. Nous avons la réponse. Jésus est le Sauveur. Il est celui qui pardonne les péchés. Il est celui qui tient tout entre ses mains. Et c'est bon de le dire. C'est bon de le proclamer. Ne permettons pas à ce qui nous entoure de nous faire perdre notre assurance, de nous faire douter de nos convictions. Le troisième piège évité, c'était celui de vouloir affronter ces gens sur leur terrain, avec leurs armes. Pierre était en face de personnes qui connaissaient la Bible, qui étaient très instruits. S'ils commençaient à vouloir parler étymologie, interprétation des textes, ils allaient se faire démonter. Hein. Fallait surtout pas qu'ils rentrent sur ce terrain-là. Ne pensez pas que c'était des imbéciles. Hein. C'était des gens qui étaient très instruits. Et ils connaissaient les Écritures. Donc si Pierre et Jean voulaient aller un petit peu sur ce terrain-là et jouer les intellectuels, ils allaient se faire recevoir. Mais ils y sont allés sur leur terrain. Et leur terrain, c'est d'annoncer Jésus, de proclamer la bonne nouvelle, de dire que Jésus est vivant. Ils n'ont pas cherché à les épater, à les impressionner. Ils n'ont pas cherché à les amadouer. Ils n'ont pas cherché aussi la confrontation directe, violemment, parce qu'ils devaient être énervants, ces gens-là. Vous savez, ils devaient les regarder. Et, vous savez, avec un regard, on peut faire passer beaucoup de messages. Hein. Et quand on n'aime pas quelqu'un, avec le regard, sans parler, on peut lui dire. Et je pense qu'il y avait quelque chose, c'était un peu électrique. Mais ils y sont allés avec leurs armes et ils l'ont fait. Il nous est dit, il y a un texte qu'on aime bien, il nous est dit qu'ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est beau ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils se sont souvenus qu'ils les ont vus à côté de Jésus? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que par leur manière d'être, ils ont fait le rapprochement avec Jésus? Moi, je pencherai plutôt pour le deuxième. Ça peut être le premier, hein, mais je pencherai plutôt pour le deuxième, parce que dans leur manière d'être, déjà dans leur langage, ils étaient galiléens, comme Jésus. Il y avait peut-être un accent galiléen, comme il peut y avoir un accent marseillais. Vous voyez, il y avait peut-être quelque chose. Rappelez-vous, quand Pierre est auprès du feu, les serviteurs vont dire « Ton langage te fait reconnaître, t'es avec lui ». Donc il y a bien quelque chose chez les Galiléens qui permettait de les reconnaître. Et je pense qu'aussi au contact de Jésus, ils avaient appris à parler comme Jésus, à répondre comme Jésus. Et puis leur assurance, je viens de le dire, mais ces gens étaient sans instruction, illettrés littéralement. Mais quelle assurance, pas de l'aplomb, hein, mais de l'assurance. Conscients de leur faiblesse, mais plein de conviction. Et puis leur simplicité, qui nous rappelle aussi Jésus. Jésus est paru comme un simple homme. Bien évidemment, l'onction de l'Esprit. L'onction de l'Esprit, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas dire avec ses mots, mais ça se ressent. Je me rappelle, c'était en 1986, lorsque Billy Graham est venu en France, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui l'avait interviewé, puis pendant 2 minutes, il avait prêché l'Évangile. Mais ce que je me rappelle, c'est que Patrick Poivre d'Arvor avait été ému. Et elle avait parlé d'une force de persuasion chez Billy Graham. En fait, s'il connaissait la Bible, il aurait parlé d'onction. Il aurait parlé comme ça. Mais il avait ressenti quelque chose qu'il ne pouvait pas définir, parce qu'il n'avait pas la connaissance biblique. Et c'est sûr que Pierre, quand ils les ont vus parler, et qu'ils ont comme ils se dégageaient quelque chose. Leur détermination aussi. Rien ne les fait changer d'avis. Hein. Ils ne bougent pas. Même les menaces... Ça ne les impressionne pas. Leur enthousiasme et leur joie caractérisent et leur rappellent Jésus. Parce que Jésus, ce n'était pas un mystique impassible, hein, c'était quelqu'un de joyeux. Des fois, on est un petit peu faussé par des images de cinéma ou quoi. Mais leur enthousiasme, ils étaient pleins de joie. La joie est un bon fil rouge dans le livre des Actes. Et puis, bien évidemment, leur amour, leur solidarité. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, Jésus avait dit. En tous les cas, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Je trouve qu'elle est beau. Elle est belle cette phrase. Ça n'a pas été dit comme un compliment, mais je suis sûr qu'eux l'ont reçu comme un compliment. Si nous on dit « moi je suis avec Jésus », et quand c'est les autres qui le reconnaissent, ça a plus de valeur, hein, qu'un autre te loue et non ta bouche, nous dit la parole de Dieu. Je pense qu'aussi ça les a amenés à prendre conscience qu'ils étaient observés. Vous savez, nous sommes observés, nous sommes vus. On est un peu comme dans un aquarium, hein, et quand on regarde des poissons là. Le chrétien est un petit peu dans un aquarium, on est observé. Les gens nous regardent, ils ont les yeux sur nous. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Quelqu'un terrorisé et paniqué, comme tout le monde, à cause de regarder BFM TV ou je sais quoi ? Quelqu'un qui vit dans la tristesse ? Ou quelqu'un qui a de l'espérance ? Un chrétien triste est un triste chrétien, c'est faux. Mais un chrétien ne doit pas rester dans la tristesse quand même. La norme, c'est la joie et la paix. Un chrétien pessimiste ? Bon, je crois que la foi, elle rend plutôt optimiste, hein, même si on n'est pas là aussi déconnecté. Et quelqu'un qui a dit, je l'ai noté, un pessimiste voit les difficultés dans chaque opportunité, un optimiste voit les opportunités dans chaque difficulté. Alors, ce n'est pas la Bible qui le dit, c'est Churchill, mais je trouve que c'est bien. Mais, en tout cas, je reviens là parce que je me suis écarté de mon point, mais ils ne sont pas tombés dans ce piège. Ils sont dans ce piège de vouloir les affronter. Ils ont été avec leurs armes, avec leurs méthodes. La Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. J'aurais pu parler du pardon, enfin de toutes ces armes-là. Et je crois que c'est celle-ci. Et c'est par celle-ci que l'on va pouvoir reconnaître Jésus au travers de nous. Il y a un quatrième piège qui a été évité. C'était celui d'alléger le message. Pierre, il m'impressionne toujours. Devant un auditoire qui n'est pas du tout acquis, hein, il y va et il y va franco. C'est clair et net et ce n'est pas du light. Regardez comment. Ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, nous avons tous crucifié Jésus. Dans le sens que nous avons rendu sa mort nécessaire. Notre péché a obligé Dieu à descendre de son ciel et à venir prendre notre place sur la croix. C'est pour ça que Jésus est mort. Mais quand Pierre dit « ce Jésus que vous avez crucifié », ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il s'adresse à ceux qui ont complété, qui ont manigancé, qui ont orchestré la crucifixion de Jésus. Il s'adresse aux auteurs directs de la mort de Jésus. Alors, il leur dit en face, hein. Il n'insiste pas, mais il leur dit « il n'est pas dupe ». Et puis il continue. Il affirme la résurrection de Jésus. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Il parle de la résurrection de Jésus. Eux sont des témoins oculaires. Nous, nous ne le sommes pas. Mais nous sommes quand même témoins de la résurrection de Jésus. Parce qu'il est vivant. Et parce qu'il vit en nous. Parce qu'il a pardonné nos péchés. Et puis alors, le verset 12. Un verset dans lequel il y a tout l'évangile. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné, par lequel nous devions être sauvés. Il veut dire quoi ce verset ? C'est de la dynamite. Pierre leur dit que tous les hommes doivent être sauvés, même vous. Grand pontre, religieux, vous devez être sauvés. Il leur dit que le salut n'est possible qu'en Jésus-Christ, c'est exclusif. L'Église catholique a repris une parole de Cyprien, se l'approprie en disant « hors de l'Église, point de salut », c'est faux. Mais hors de Jésus-Christ, point de salut, c'est vrai. C'est l'Évangile. C'est ce que la Bible parle et ce verset, il est exclusif. Ah, il ne passe pas celui-là. Mais il est catégorique. Et puis, il annonçait que le salut, c'est simple. Comme la foi. Et qu'il n'y avait pas besoin de se faire circoncire. Enfin, tout est contenu. Mettez-vous à la place de ces chefs religieux qui pensaient détenir le monopole de la vérité, qui pensaient être les incontournables dans le salut. Il les remet à leur place. C'est-à-dire, moi j'admire. J'admire que Pierre, sous la pression, il n'a pas cherché à alléger le message en présentant un salut parmi d'autres, en essayant de l'arrondir dans les angles. Vous savez, des fois on peut tenter d'alléger l'évangile sous la pression, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui dérangent. Des fois, pour entrer dans certains milieux, Mais la prédication de l'Évangile, elle implique la prédication de l'exclusivité du salut en Jésus-Christ. La prédication de l'Évangile, elle implique la nécessité de la repentance et la dénonciation du péché. La prédication de l'Évangile implique la prédication de la croix, qui est incontournable. Jésus a donné sa vie pour nous sauver. La prédication de l'Évangile implique la nécessité de la nouvelle naissance. La prédication de l'Évangile implique la nécessité de proclamer la divinité de Jésus-Christ. Pas un ange, hein. C'est un homme. C'est un prophète. Et c'est le Dieu qui s'est manifesté en chair. Mais retenez que Pierre, sous la pression, il n'a pas allégé le message. Et nous, on ne veut pas l'alléger. Parce que alléger le message, ça conduit à quoi? Ça conduit à un moment donné à prêcher un autre évangile, voire un faux évangile. Aujourd'hui, dans certains évangiles, on ne se retrouve pas. Parce qu'on veut tellement l'alléger, on veut tellement le faire passer, que l'on le... C'est un petit peu comme la cuisine. Hein. Il faut, à force de le traiter, d'y mettre telle chose, à un moment donné, ça n'a plus le goût de... C'est un petit peu la même chose. Et puis, un cinquième piège évité, c'était celui d'accepter le deal. Les religieux ont exigé d'eux qu'ils n'enseignent pas dans le nom de Jésus, c'est-à-dire qu'ils n'annoncent pas l'évangile de Jésus-Christ. Ils leur ont défendu absolument. Ils les ont menacés. Et les apôtres savaient de quoi ils étaient capables. Hein. Et en échange, c'était « on vous rend votre liberté ». C'était tentant. C'était tentant. Hein. Il y avait une vraie pression sur eux et une vraie tentation. Un piège. Parce que la loi, elle était de leur côté, en tout cas la force. C'était eux qui la faisaient, qui l'appliquaient, même s'ils sortaient du cadre de la loi, bien souvent. La Bible prône d'être soumis aux autorités, alors devaient-ils se soumettre? Accepter le deal, c'était une tentation pour pouvoir être rapidement en liberté. Il y a peut-être une petite voix qui leur disait, tu sais, t'acceptes, et puis une fois que t'es dehors, tu continues de prêcher l'évangile. Et ça, c'est une méthode pour le monde, mais pas pour le chrétien. Hein. On ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Et il fallait se positionner, parce qu'après, on est coincé par son oui ou par son non. Vous savez, un mensonge, ça ne nous sort jamais de prison, ça nous met dans une autre prison. Pas pareil. Mais, vous voyez, devant tous ces paramètres-là, ils se positionnent. Ah, moi, j'aime la réponse de Pierre. Jugez s'il faut vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Ils se positionnent. Comprenons bien que ils n'obéissent pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont insoumis aux autorités. Mais il y a toujours pour nous l'obéissance à Dieu. Elle prime sur l'obéissance aux hommes. Et là, dans la Bible, on trouve quelques exemples de personnes qui ont refusé de se soumettre. Ce n'est pas de la rébellion, mais ils ont refusé de se soumettre à une loi qui n'était pas compatible avec la foi, avec ce que Dieu leur demandait. Je citais tout à l'heure les trois amis de Daniel. Quand on leur a imposé de se procéder dans une statue, c'était la loi. Ils n'ont pas pu accepter. Hein. On pense aussi à Daniel lui-même. Ça, c'est dans Daniel 6. Quand il y a eu cette loi qui disait qu'on peut prier que l'empereur babylonien ou perse. Et lui, il a refusé. Il a continué comme il disait toujours. Je prierai toujours, mon Dieu. Mais on peut trouver d'autres personnes. Mais c'est une tentation. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, il est question des héros de la foi. Il nous est dit que certains vaincurent par des royaumes, guérirent leur maladie, puis d'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ça veut dire que des fois, il faut refuser de sortir d'une situation compliquée par une espèce de compromis. Je pense à un texte, c'est Moïse avec Pharaon. Vous rappelez ce bras de fer entre... Pharaon, c'est dur, hein. Il est endurci. C'est même Dieu qui va finir par l'endurcir. Mais à un moment donné, Pharaon commence à faire des concessions. En fait, c'est du compromis qu'il propose. Il dira, bon allez, c'est bon, vous pouvez y aller, mais n'allez pas trop loin. Et puis à un moment donné, il dira, bon, allez-y, mais vous laissez les enfants par là. Et puis à un moment donné, vous y allez, mais vous n'emmenez pas le bétail. Il propose des compromis, des choses qui ne sont pas acceptables. Et il y a des choses qu'il faut savoir refuser. On se positionne quitte à avoir d'autres problèmes. Mais je trouve ça, c'est remarquable. Ils ont refusé le deal parce que c'était un piège. C'était comme un compromis. Et ils se seraient fait avoir. Accepter de ne pas annoncer l'évangile de Jésus-Christ, c'était le deal, hein. C'était finalement cesser d'être l'église de Jésus-Christ. On a une mission, hein, qui est de proclamer la bonne nouvelle jusqu'à son retour. On va annoncer que Jésus est le vivant et qu'il est celui qui sauve les pécheurs. Et ça, quand même on nous l'imposerait, on ne l'acceptera pas. On veut continuer. Et je dis ça dans un contexte où on a une loi qui cherche à resserrer, hein. Et on fait attention, on n'est pas dans l'insoumission. Mais les choses que Dieu nous demande, on va aller jusqu'au bout et proclamer la bonne nouvelle. Nous sommes confrontés à ces pièges, à ces tentations, peut-être je pourrais dire aussi à ces séductions, même si ce n'est pas attirant. Rappelons-nous, le piège de détourner les grâces que Dieu nous a accordées, à lui soit la gloire. Le piège de se laisser intimider et d'avoir honte de Jésus-Christ. On ne veut point avoir honte de l'évangile de Jésus-Christ. On veut dire comme Paul, hein, nous sommes fiers de la croix. La croix, elle nous a toute gloire, mais on est fiers de ce que Jésus a fait pour nous. On veut faire attention au piège d'utiliser des méthodes qui ne sont pas les nôtres. Nos méthodes, c'est le fruit de l'esprit, ce sont les dons de l'esprit, c'est la prédication de l'évangile. On ne veut pas se laisser piéger en allégeant notre message aussi. Notre message, il est clair, il est net. La repentance, la croix, la grâce, tout ça, ça en fait partie. On ne va rien enlever. Sinon, on le dénature. Et on ne veut pas tomber dans le piège de certains compromis. On veut annoncer Jésus-Christ. Si nous évitons ces pièges, je crois que les gens pourront voir Jésus. Ils pourront voir qu'on a été avec Jésus. Ils le verront. Ils le verront au travers de nous. Que le Seigneur nous aide à être attentifs, veillants, et à demeurer fidèle à ce qu'il nous demande. Dans ce contexte que le nôtre, on va prier le Seigneur maintenant. Seigneur, on veut être fidèle jusqu'au bout, dans notre manière de vivre, fidèle par rapport au mandat que tu nous as donné. On veut annoncer Jésus-Christ, l'Évangile, avec tes moyens, comme tu nous l'as demandé. On ne veut pas tomber dans une espèce de compromis au point de dénaturer l'Évangile. Seigneur, on a besoin de ta grâce. Garde-nous de tous ces pièges qui pourraient être là. Mais on voit qu'avec ton esprit, on peut les éviter. Merci de bénir mon frère, ma sœur, dans tous ces combats, dans toutes ces luttes. Je prie pour celui qui ne te connaît pas. Celui qui n'a pas Jésus comme sauveur, et je prie pour que ce matin, il y ait une démarche du cœur, une démarche de foi, pour que le nom soit inscrit dans le livre de vie, qu'une telle personne puisse accepter Jésus comme sauveur et recevoir la vie éternelle. Je prie pour tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, pour qu'on soit fidèles, pour qu'on puisse être des témoins de Jésus-Christ, ouvriers avec Christ, ambassadeur de Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous aider. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.